Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello les amis, ici Pauline Hénio, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode où vous allez rire, mais vous allez rire j'espère autant que moi lorsque j'ai fait cette interview. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce podcast est un podcast où j'ai le plaisir d'inviter des personnalités remarquables dans des domaines tous plus variés les uns que les autres. Peut-être des entrepreneurs, des journalistes comme c'est le cas aujourd'hui, des artistes, des athlètes, bref, vraiment des personnes dans des domaines extrêmement variés. Et l'objectif, c'est assez simplement de les écouter, d'essayer de les comprendre pour en apprendre un maximum de choses, en tirer des enseignements et pour pouvoir ensuite l'appliquer à nos propres vies. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir peut-être une personnalité, mais vraiment irrésistiblement drôle, comme je vous le disais. Cette invitée s'appelle Peggy. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Peggy, pour vous la décrire, est vraiment une référence dans le monde de la mode. Elle a été pendant 15 ans journaliste chez Madame Figaro, où elle s'est fait connaître par son panache, sa joie de vivre et son fameux bisou. On en parlera dans l'épisode. Parce que oui, Peggy est spécialiste des bisous, figurez-vous. Elle en a fait littéralement à la terre entière et vraiment les personnes les plus improbables. Anna Wintour, Karl Lagerfeld, Jacquemus, moi maintenant, bref, la terre entière. Elle s'est lancée il y a quelques années à son propre compte sur Instagram et a presque inventé un nouveau métier, à savoir celui de social journaliste. C'est en tout cas comme ça qu'elle l'appelle. Concrètement, elle va à la rencontre de marques de personnalités inspirantes pour les faire parler, pour montrer l'envers du décor de ce qu'ils font. Et sa manière toujours très sincère, fraîche et surtout irrésistiblement drôle, évidemment, a fait que son compte Instagram est devenu un très grand succès. Dans cette interview, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on sent que Peggy est 100% elle-même. Elle est drôle, elle est sincère. Elle va également, je suis sûre, vous dévoiler un certain nombre de petites astuces que vous allez pouvoir implémenter pour réussir à mener de bonnes interviews sur le fait de ne pas travailler, par exemple. Ce qui est évidemment est assez contradictoire avec ce que je fais, mais pourquoi pas. Au moins comme ça, tout le monde aura des idées variées, des choses à prendre intéressantes. Tout ça pour dire que c'est un épisode que j'ai vraiment apprécié et je remercie Peggy d'avoir joué le jeu à 100%. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Peggy.
Salut Peggy.
Salut Pauline.
Trop contente de t'avoir.
Surtout qu'on a mis du temps à le mettre en place ce rendez-vous.
On a mis beaucoup de temps. Bah, ton agenda et le mien sont pas faciles. Mais alors du coup tant mieux parce que j'ai eu bien le temps de préparer cette interview. Comme tu sais.
Il faut vous dire que justement, elle m'a dit qu'elle n'avait rien préparé en fait. Et comme j'ai rien préparé non plus, ça va être une interview qui va partir dans tous les sens.
Mais c'est tout ce qu'on aime, bah puisque voilà. J'ai quand même un peu fait mon homework pour toi, sur toi, et je sais que tu justement aimes la spontanéité par-dessus tout. Mais J'aimerais commencer par autre chose.
Vas-y.
J'ai quand même un petit peu préparé, et J'ai vu que tu as dit, si je ne me trompe pas, même si Internet nous dit parfois des choses qui sont complètement fausses, les choses n'arrivent jamais par hasard. Mon mantra depuis toujours, c'est « make it happen ». Il faut se donner les moyens d'arriver à ses fins, il faut savoir provoquer ses chances, aller les chercher. Et venant de toi, j'adore, parce que effectivement, toi, tu vas carrément chercher les bisous des gens. Mais je voulais savoir si tu avais un exemple qui te vient en tête pour illustrer ça, peut-être dans ta vie, si tu peux élaborer, parce que je pense que c'est quelque chose qui va parler à beaucoup de monde.
Mais j'ai plein d'exemples, parce qu'en fait, c'est évidemment un mantra que j'ai en moi depuis plusieurs années et que j'ai mis du temps à comprendre, parce que tu comprends les choses en faisant des choses et en avançant. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'effectivement, les choses ne te tombent pas tout cuit dans la main et qu'il faut aller chercher beaucoup de choses pour t'offrir la vie que tu veux, les lignes que tu veux avoir dans ta vie. Donc ouais, ça, très bêtement, tu vois, ça a commencé par exemple quand je, parce que j'ai bossé pour, mais on reviendra peut-être sur le parcours après, mais j'ai bossé pendant 15 ans pour Madame Figaro, le magazine Madame Figaro, et un de mes rêves quand j'étais au journal, c'était d'interviewer Jenna Lyons, qui était à l'époque la directrice artistique de J.Crew aux États-Unis et qui lançait J.Crew en France, et un de mes rêves c'était d'interviewer Jenna. Évidemment, j'avais aucun contact, je la connaissais pas, etc. Et je me suis dit, mais Peggy, il faut que tu arrives à trouver un moyen d'interviewer cette fille qui a l'air juste dingote. Il y avait pas encore Insta, donc j'ai pas pu faire de trucs sur Insta avec ça, mais ça aurait été génial, tu vois. Et bon, bref, je me débrouille pour trouver le mail de son assistante. Et là, j'envoie un mail à son assistante, ce qui n'était pas son assistante d'ailleurs, qui était l'attachée de presse. Et je lui dis, voilà, je m'appelle Peggy, je travaille pour Madame Figaro. J'aimerais beaucoup venir interviewer Jenna. Bon, évidemment, elle me répond, c'est pas possible. Enfin, tu vois, j'ai eu un nom. Et puis, je me suis pas laissée abattre. Et je me suis dit, mais Jenna, en fait, je vais réussir à la voir. Et là, j'ai commencé à lui envoyer un mail par jour. L'intitulé du mail, c'était de mémoire Harassment Program ou un truc comme ça, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4. Donc tous les jours, donc, la meuf recevait un mail de ma part en lui disant « Coucou, je suis là !» Et en fait, ça a fini par la faire marrer. Et je suis venue à New York pour faire d'autres sujets pour Madame Figaro. Et j'ai dit à cette fille « Voilà, je viens pour faire d'autres sujets. » Mais vraiment... Et elle m'a dit, allez banco, et c'est comme ça que j'ai rencontré Jenna, et qu'on est devenus très copines depuis parce qu'on a gardé un lien, etc. Mais quand je dis make it happen, j'aurais pu m'arrêter en disant, bon, allez, on lâche l'affaire, l'assistante est pas très cool, elle me met, mais en fait, t'arrives toujours par l'humour te permet déjà de débloquer pas mal de situations. Et l'humour et la gentillesse, il faut savoir être sympa et tenace. Et il faut parfois aller chercher les trucs. Et donc, il faut te donner les moyens d'arriver à faire des choses. Tout le temps dans la bonne humeur, parce qu'il faut pas non plus être relou buté et tout ça. Tu vois, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste que... allez, si tu rentres pas par la porte, passe par la fenêtre. Puis si c'est pas la fenêtre, ce sera la lucarne du haut. Mais il faut réussir à trouver ton chemin et à te permettre d'arriver à tes fins comme tu le veux, en fait. Et ça, c'est un petit exemple.
Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que je pense que l'image d'une journaliste de Madame Figaro pour les personnes qui nous écoutent et moi-même, c'est de se dire non, mais en fait,
les portes sont ouvertes.
Il y a pas besoin de bosser. Il y a besoin de préparer l'interview. Il y a besoin d'être bon dans l'interview. Mais je veux dire, t'as pas besoin de te démener.
Les portes sont ouvertes en France. Parce que tout le monde connaît Madame Figaro, etc. Mais quand tu vas t'adresser à un marché américain qui est pas encore implanté en France, parce que J.Crew était pas encore implanté en France, bah tu vois, les Américains, ils se disent attends, what the point, quoi, en fait, tu vois, il y a pas énormément d'intérêt. Donc en fait, non, parfois faut vraiment insister et faire preuve de ténacité. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'emploie ce truc make it happen, c'est-à-dire que là, je sais pas si on va en parler, mais juste avant, là, je te racontais qu'on partait au Canada. Et d'ailleurs, quand je l'ai annoncé sur Instagram, c'est exactement ce mantra-là que j'ai utilisé. J'ai expliqué que ça faisait 7 ou 8 ans qu'avec les enfants et avec mon mari, on avait ce rêve en nous, mais vraiment un rêve, mais un peu comme un fantasme, en fait. Tu vois, un truc... Tu sais, t'as toujours des fantasmes. Et là, c'était là, ouais, ce serait génial si on pouvait partir en Amérique du Nord, au Canada et tout. Et sans vraiment creuser, sans vraiment s'en donner les moyens. Et en septembre, c'est Pia, ma fille, qui nous a dit « Vous êtes relou, hein. Soit on le fait, soit on arrête d'en parler. » Ok.
Bam, ça
et
casse.
Et bam. Donc là, on s'est regardé avec mon mari, on s'est dit interesting. Et là, on s'est dit, allez, elle a raison, en fait. On envoie un dossier à l'immigration, on voit si ça passe ou ça casse, et on va au bout du truc. Et on est super contents parce que là on a eu notre réponse il y a un mois et ça le fait. Ça se trouve je vais me planter, ça va pas nous plaire et on reviendra dans un an. Mais c'est pas grave, on aura fait en sorte d'aller au bout de ce truc là. Mais c'est pas arrivé tout cuit. Voilà, on s'est donné les moyens, on a concocté ce dossier de dingo qui est super difficile à faire. On s'est donné du mal et c'est en ça que je te dis ça. C'est en ça qu'il faut savoir aller au bout de ces trucs et s'en donner les moyens.
Ouais, s'en donner les moyens. Et puis, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que t'as dit que c'était pas du tout cuit, que c'était pas facile. Parce que faire un dossier, c'est pas facile, mais aussi déménager pour le job, c'est quand même pas évident.
Bah, c'est une énorme remise en question sur plein de trucs.
C'est ça.
Voilà. Donc, mais la vie, en fait, c'est une énorme remise en question sur plein de trucs tout le temps. Parce que si tu fais zéro remise en question, si tu restes toujours dans ta zone de confort et t'es bien placé pour le savoir, tu fais 1000 choses à la fois, donc t'es bien placé pour savoir ça, mais t'avances pas. Et puis, il y a un moment où tu t'encroûtes. Enfin, après, ça dépend peut-être des tempéraments.
Ouais, ouais.
Tu vois, tout est une question de tempérament et toi comment tu vis ton truc, mais moi je trouve que c'est hyper intéressant de et enrichissant de savoir se remettre en question et de savoir bousculer tout ça. C'est pareil, on en reparlera peut-être après, mais quand j'ai quitté le journal, enfin le Madame Figaro, il y a 15 ans. Ouais. Il y a 15 ans, pardon, il y a 3 ans, parce que j'y suis restée 15 ans. Tu peux pas savoir comme j'avais le vertige. Et tu sais, j'avais cette impression d'être en haut d'un immeuble, d'un gratte-ciel, tu vois, à New York, et de me dire, putain, je vais sauter et je vais soit me ramasser la tronche et m'écraser, soit je vais voler. Mais t'as aucune certitude au moment où tu fais les choses.
Ouais, c'est le saut dans
toi, quand t'as lancé ta boîte, tu n'avais aucune certitude, mais tu le fais. Voilà, il faut savoir avoir ce petit vertige, et puis si tu te plantes, c'est pas la fin du monde, tu joues pas ta vie non plus. Donc moi je pars du principe que tant que tu n'es pas sur un lit d'hôpital en train de te battre contre une maladie très grave, après tout rien n'est grave quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas...
Alors, je voulais parler justement du grand saut quoi, du saut dans le vide. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu te dis OK, ça fait 15 ans que je suis chez Madame Fig, ça se passe hyper bien, j'ai tout qui roule pour moi, mais j'ai envie de devenir journaliste social. Enfin,
ouais, tu vois, t'es comme moi, je sais même pas comment on dit en fait. Ouais. T'as raison, je dis ça aussi, mais je sais même pas.
J'ai envie de devenir en gros une autre sorte de inventer en plus sincèrement un nouveau métier quand même.
Ouais, mais en fait, comme dans tout ce que je fais, ça s'est fait de manière j'allais dire hyper naturelle, parce qu'en fait, je suis venue à Instagram. Enfin, c'est Morgane Cesalori qui m'a dit, parce que moi, je suis pas du tout une geek. Faut savoir, j'allume un ordinateur, il se pète en 2 secondes. Je suis nulle. Et une fois, je vais interviewer Morgane Cesalori pour Cézanne, quand j'étais encore Madame Figaro, en 2014 ou 2013, je crois, je sais plus, au début d'Instagram. Il y avait pas encore les stories, tu vois, il y avait que les photos. Et je papote avec Morgane et je lui raconte une anecdote et elle me dit, mais c'est dingue, tu devrais vraiment avoir un compte Insta et montrer les coulisses de ton métier, c'est génial. Je fais, tiens. Puis tu sais, d'emblée, je me dis, rien que l'idée d'essayer de comprendre comment ce truc marchait, je me disais, Puis je me dis, bon, je vais quand même regarder. Et ça, c'est venu comme ça. Et petit à petit, j'ai vraiment commencé à m'amuser avec Instagram, surtout quand les stories sont arrivées et les vidéos. Moi, c'est ça, ce qui me fait marrer, c'est les vidéos. Et en fait, pour répondre à ta question, c'est vrai que j'étais bien au Madame Figaro. J'avais eu un joli parcours. Ma boss, Anne-Florence Schmitt, m'avait permis de bien évoluer, de faire des trucs hyper cool. Elle m'envoyait sur les Fashion Week, sur tout ça, c'était génial. Mais je sentais au fond de moi, et ça, j'arrive pas trop à l'expliquer parce que c'est un truc que tu ressens, c'est limite instinctif en fait, que j'étais arrivée au bout d'un cycle. C'est-à-dire que, ok, c'était bien. J'adore d'ailleurs toujours mon métier, hein. Mais je sentais que la presse écrite était quand même dans une position un peu, voire très compliquée. J'avais plus de difficultés à imposer des sujets en conf de rédaction quand la personne dont je voulais parler n'était pas un annonceur. Tu sais que tout est lié beaucoup aux annonceurs. Et en fait, toute cette fibre journalistique et cette curiosité de journaliste, je la perdais un petit peu parce qu'en fait, j'étais un peu bridée parce que je pouvais pas parler de qui je voulais complètement. Donc ça me saoulait un peu, tu vois, ça faisait partie des choses qui me saoulaient. Et puis je commençais vraiment à m'amuser avec ce truc-là et surtout... des marques commençaient à faire appel à moi et bosser avec moi. Et du coup, j'ai eu vraiment le cul assis entre deux chaises pendant un an. Et pendant un an, je me suis posé des questions et je me suis dit, allez, Peggy, demain, t'arrêtes. Et puis, je me réveillais le lendemain et je me disais, non, mais t'es complètement tarée. Jamais de la vie, t'arrêtes, t'es folle. Je veux dire, c'est pas, la place est bien.
Mais surtout, il y a tellement peu de place dans le monde des journalistes.
Il y a très peu de place. Donc, je me suis dit, t'es complètement folle. Puis après, le lendemain, je me réveillais. Je me disais, allez, banco, ça y est, c'est terminé. Puis tout ça pendant un an. Et puis, de manière assez naturelle, un jour, je me suis vraiment... Je revenais d'une Fashion Week, je revenais de Londres, je crois. Et puis là, je me suis dit, c'est bon, ça y est, je sens que je suis prête. En fait, tu sens au fond de toi quand t'es prête, en fait. C'est pour ça, souvent, j'ai des copines qui me disent, je me pose plein de questions, j'ai envie d'arrêter mon job et de me lancer dedans. Je lui dis, attends... au fond de toi, tu vas le sentir, en fait. Les choses vont s'aligner et tu vas sentir que de toute façon, c'est limite une question de survie. Et en fait, tu vas faire ton
truc. T'as plus le choix,
voilà,
presque.
Il faut y aller. Et donc, je suis allée voir ma boss et je lui ai dit, voilà, Anne-Florence, je m'en vais, quoi. D'ailleurs, elle a vu que j'étais assez déterminée quand je suis allée la voir et elle a pas essayé de me retenir et elle m'a dit, pars, quoi. Et voilà, comment ça s'est fait. Et puis j'ai eu du bol. J'ai eu de la chance parce qu'en fait, j'ai commencé, les marques m'ont fait confiance très rapidement, mais elles me connaissaient, donc c'était facile, si tu veux. Je connais déjà tous les directeurs de communication, tous les trucs. Donc, j'avais déjà fait mes preuves et en fait, les marques cherchaient aussi un autre moyen de communiquer. Donc en fait, le timing était super et j'ai eu de la chance parce que je m'éclate toujours en temps aujourd'hui et je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais.
Tu vois, c'est marrant, en parlant, je regarde le téléphone.
C'est
mon meilleur ami et mon pire ennemi à la fois, ce téléphone.
Mais dis-moi, alors concrètement, pour les personnes peut-être qui te connaissent moins bien, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce métier que tu as inventé? Parce que moi, c'est ça aussi que je trouve hyper intéressant, c'est que tu as été très précurseur sur le fait d'être journaliste digital, en fait, mais où tu as créé ton propre média, quoi, qui est le méga Piggy Fray.
Bah, t'as tout dit. Enfin, sauf que j'ai fait ça sans vraiment... Alors, en fait, je suis très bordélique.
Voilà. Bon, moi, tu le sais.
Voilà, moi, comme ça, c'est dit, et dans ma maison, et dans mon dressing, et dans mes papiers, et dans ma façon d'appréhender la vie. Et donc, en fait, je n'avais pas de business plan, j'avais pas de plan prédéfini. Toi, j'ai écouté Mathilde Lacombe. Ce matin, j'ai écouté Mathilde dans ton podcast.
Les Rémoises, dis-moi.
Tu vois, je suis attirée par les Rémoises. J'ai écouté Mathilde. Et puis Mathilde, je la connais bien, donc ça me parlait. Et Mathilde, quand elle te dit « j'avais mes PowerPoints de prêt », tout ça, bon, c'est pas la même chose, c'est un lancement d'une marque. Moi, franchement, je suis nulle pour tout ça. Mathilde, elle est hyper organisée. Je le vois, tu vois, parfois, je la vois dans le train. Elle sort son ordinateur. Tout est nickel. Moi, je suis là. Bon, mais c'est comme ça. Donc je suis partie sans vraiment savoir où ça allait m'emmener. Et en fait, je définis petit à petit les traits de ce nouveau métier au fil des semaines et au fil des mois et encore aujourd'hui, tu vois, ça change. Donc en fait, les marques font appel à moi soit pour les conseiller sur leur compte Instagram, la façon dont il faut, parce que c'est hyper important, bichonner leur compte Instagram, la façon dont il faut parler aux personnes. Elles font appel à moi aussi pour animer des conférences ou des lives. Tu vois, là, j'ai bossé pour Sephora pendant toute leur journée. Pour parler d'eux sur ma plateforme, mais quand ça me plaît, tu vois, parce que je veux pas me forcer. Instagram, tu ne peux pas mentir. Enfin, moi, je pars du principe que sur Instagram... et c'est ce que j'aime dans ce truc-là, d'ailleurs, c'est qu'il faut énormément d'authenticité et de... Tu peux pas être bullshit. D'ailleurs, quand quelqu'un est bullshit sur Instagram, tu le vois tout de suite.
C'est marrant que tu dis ça. Je me permets de t'interrompre parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent tout le temps « Est-ce qu'elle est pareille en vrai ?»
Voilà.
Mais en fait, je crois que sur Instagram, tu ne peux pas être pas pareil mais que non, c'est comme ça. Tu es, quoi.
Sinon, les gens le sentent. Et puis, moi, je suis pas schizophrène. Je veux dire, je peux avoir deux personnalités. Donc, en fait, ça se retrouve dans les marques ou tout ça dont je parle sur ce réseau. Moi, je ne veux pas me forcer à parler de qui que ce soit. Et parfois, on m'appelle en me disant « on aimerait travailler avec toi ». Et si la marque ne me parle pas, si c'est quelque chose que je ne vais pas porter ou qui ne m'émeut pas, je dis non, en fait, parce que la personne derrière son téléphone, elle n'est pas débile. Et elle voit bien, de toute façon, que ça se passe pas comme ça et tout ça. Et c'est ce qui me plaît aussi par rapport au journal dans lequel j'ai bossé, Madame Figaro ou un autre, mais... T'es pas toujours libre de pouvoir parler de qui tu veux, de la manière dont tu veux. Et c'est pour ça que j'ai adoré faire ce saut et avoir ce propre truc à moi, parce que je peux dire ce que je veux. Et je peux ne pas parler de quelqu'un si j'ai pas envie de parler de quelqu'un. Et tu vois, en revanche, je ne veux pas démonter qui que ce soit.
C'est-à-dire que. Oui, tu dénigres pas, quoi.
Voilà. Si je n'aime pas quelque chose, je me contente de ne pas en parler. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui lancent plein de choses. Je trouve qu'il faut, la niaque, faut de l'énergie, il y a tellement de concurrence que faut vraiment, tu vois, en vouloir. Et c'est pas parce que ça me parle pas à moi que ça ne parlera pas à quelqu'un d'autre. Donc je jamais de ma vie je démontrais une marque en disant c'est naze, non, c'est pas mon truc. Donc quand j'en parle, c'est que ça me plaît. Et j'ai oublié ta question, du coup.
Ma question, c'était qu'est-ce que tu fais concrètement, tu l'as un peu dit, hein.
Je te l'ai dit.
J'aimerais parler du style Peggy. Du style Peggy Fray et notamment du style de questions, d'interview, de personnalité. Parce que, tu sais, tu disais, j'aime bien être comme je suis, j'aime bien parler des gens que j'aime bien. Enfin, j'aime bien parler des gens que j'aime bien. C'est une phrase très française.
Ouais, mais bon, j'ai compris.
Voilà, t'as compris et j'espère notre audience aussi. Bref, tout ça pour dire que, effectivement, on sent que t'es 100% toi-même, que tu joues pas un rôle, que t'es complètement fofolle et c'est ça qui fait que t'es attirante et attachante d'ailleurs sur ton compte Insta. Et je voulais
savoir. Fofolle, tu me vois comme fofolle.
Légèrement.
Ok. Mais non, mais je prends.
C'est un compliment.
Non,
hein.
Mais je le prends comme ça, t'inquiète. Peu
de problème. Et du coup, si tu veux, je voulais te poser la question. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu t'es lancé sur la plateforme, t'as eu des doutes sur la posture que tu devais adopter sur Instagram? Ou est-ce que ça a été très naturel? Est-ce que t'as essayé à un moment donné de rentrer dans un rôle? Je te pose cette question parce que c'est souvent le cas, quand ça devient un outil professionnel. Tu dis, non mais attends, il faut que je fasse attention à la manière dont je vais parler. Et toi, on te voit arriver sur les Fashion Week et tu fais des bisous à Karl Lagerfeld, quoi. Donc,
Non, je ne me suis pas posé cette question-là. Et j'aurais pu me la poser parce que comment dire ça En fait, le monde de la mode, c'est un milieu qui est très particulier et c'est un milieu où on te toise beaucoup. C'est un milieu où ta voisine te regarde beaucoup. Elle va déjà regarder comment t'es sapée. Après, elle va regarder comment tu t'exprimes. Après, si t'es pas un peu snob, t'es une conne. Enfin, toi, c'est un monde qui est assez codifié. Et moi, je veux surtout pas faire partie de ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Hein. J'ai plein d'amis dans la mode qui sont hyper hyper sympas, mais je veux pas rentrer dans des codes. Ce que je déteste par-dessus tout dans la vie en général, pas seulement dans mon milieu de boulot, c'est le snobisme. Je déteste ça. Moi, je parle de la même façon à n'importe qui. Je suis aimable de la même façon avec n'importe qui. Et dès que je vois quelqu'un de snob, d'ailleurs, c'est rédhibitoire. Je déteste. C'est tout ce que je déteste. Mais je n'ai pas peur du regard de l'autre. Je n'ai pas peur du ridicule. Et je pense que c'est hyper, enfin, c'est une chance. J'en ai conscience. Parce que ça m'a permis de faire beaucoup de choses, sans avoir peur de, parce qu'en fait, ce qui te paralyse souvent, c'est le regard de l'autre et c'est de se faire juger.
Ouais. Bah, et surtout dans le secteur de la mode, effectivement, voilà. En plus.
Toi, tu regardes la voisine qui te regarde, t'es là, ah non, je vais pas faire ça parce qu'elle va se dire ça. Ah non, mais si je fais ça, elle va dire que je suis une couillonne. Et moi, je m'en moque complètement parce que y a rien de grave. Toi, ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure. Là-dedans, y a rien de grave, en fait. Moi, j'ai juste envie de faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, de la façon dont j'ai envie de le faire. Et si ça plaît pas à la voisine, mais c'est son problème, c'est pas le mien. Donc, et je pense que ça me, mais c'est, tu vois, j'ai une fille de 15 ans, Pia, et Lucien de 12 ans. Et en fait, ça fait vraiment partie des choses que j'essaye de leur inculquer. Parce que c'est difficile quand t'es ado. J'étais pas comme ça du tout d'ailleurs, ado. Hein. Ado, j'étais plutôt très timide, très réservée. Enfin, tu vois, j'ai pas, c'est pour ça que j'essaye d'en parler à Pia pour qu'elle gagne du temps par rapport à moi. En fait, il faut se foutre de tout ça, mais royalement, parce que sinon, ça, tu ne fais rien, en fait. Et l'autre, en plus, la personne qui te regarde à côté peut être tellement malveillante parfois que...
Ouais, pourquoi est-ce que t'en aurais quelque chose à faire de ton,
exactement,
de ton avis?
Faut se faire confiance. Et c'est exactement, mais voilà, j'ai de la chance. Parce que j'ai cette question, je l'ai souvent. Oh, comment tu fais pour aller faire un bisou à un tel? Comment tu fais pour raconter une blague à un tel? Bah, je me prends des vents, déjà, les amis, très souvent, hein. Je me prends beaucoup de vents, mais c'est pas grave, en fait. Le vent fait partie du truc, tu vois.
Ouais, et d'ailleurs, le vent, tu le montres aussi,
ouais,
d'ailleurs, souvent.
Bien sûr. Faut pas avoir peur de montrer des vents. Les vents, ça fait partie de la vie. Voilà, c'est souvent ce que je dis, prenez-vous des vents, ça fait partie de la vie.
Et puis, si j'en reviens au début de notre conversation, non seulement tu te prends des vents, mais t'acceptes de revenir à la charge,
ah oui,
et ça finit par marcher.
Bien
donc,
sûr,
comme quoi,
c'est comme ça que j'ai eu Anna Wintour, entre autres. Mais ouais, non mais ouais, faut y aller. Bon, alors après, parfois, il y en a qui me saoulent, je dis, toi, j'arrête,
ouais.
je vais plus
ouais,
te revoir.
Ouais, s'ils sont pas très sympas.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais faut pas avoir peur ni de l'échec, ni du vent, ni avoir peur d'être ridicule, parce que le ridicule n'a jamais tué personne. Et c'est même parfois cool d'être ridicule, parfois on s'en fout tellement.
J'allais te demander, le secteur de la mode, tu le connais bien évidemment beaucoup mieux que moi, mais c'est effectivement un secteur où il y a une image un peu de snobisme et de, on va dire, une forme de sectarisme, tu vois, soit t'en es, soit t'en es pas, et puis en tout cas on te juge, etc. Et donc toi t'es arrivé un peu comme un ovni là-dedans, même si t'es hyper bien sapé, etc. Mais bon, quand même, tu respectes pas les codes habituels, on va dire,
non,
qu'on peut avoir. Comment est-ce que tu as été perçue dans ce secteur de la mode? Même si tu me dis qu'on n'en a rien à faire du regard des autres, je serais assez curieuse de savoir si tu penses que tu as réussi à faire un peu changer le regard des gens, ou en tout cas si tu penses que ça peut avoir un rôle justement, ou si toi peut-être c'est quelque chose aussi que tu t'es fixé comme mission d'une certaine manière, de un peu faire changer ce secteur de ce point de vue-là.
Non, j'ai pas de mission. Je me mets pas une mission dans la tête. Moi, j'ai juste envie de rester fidèle à ce que je suis et de prendre du plaisir. Voilà, moi je veux continuer à prendre du plaisir. Attends, c'était quoi ta question d'avant?
Non,
c'était,
mais c'est
comment je suis perçue, c'est ça, par le milieu? Eh ben écoute, c'est super difficile de répondre à cette question, parce qu'en fait, il faudrait que je leur pose la question. Je sais qu'il y a des personnes qui il doit certainement y avoir des personnes qui m'aiment pas,
comme de tous.
Enfin, tu vois, je le sais d'ailleurs. Je vais pas citer les noms, mais je le sais. Mais voilà, c'est pas grave. Enfin, tu vois, je m'en fous déjà. Et puis il y a des personnes que je fais marrer aussi. Tu vois, il y a beaucoup de personnes dans la mode qui me disent c'est cool parce qu'en fait.
Ouais, c'est rafraîchissant, quoi.
Enfin, tu vois, c'est frais et puis tu montres que voilà, c'est un milieu qui, ok, peut être codifié, mais en même temps, il peut être détente et il peut être cool et il peut. Donc, je pense que j'ai les deux, mais mais c'est pas grave s'il y en a. Je sais qu'il y en a plein qui comprennent pas forcément et qu'il y en a qui doivent dire oh là là, cette espèce de couillonne, elle a fait un bisou à Anna Wintour, la honte.
Ouais, c'est leur problème.
Je m'en
quoi.
Moque. Ouais, franchement, je m'en moque parce que tu peux pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, il y aura toujours des gens qui seront là pour te. De la manière dont je mène mon Insta, parfois, j'entends des gens qui me disent ouais, elle a fait ça. Je dis bah oui, bah écoute, fais ce que tu veux de ton côté et puis voilà. Mais voilà, non, moi ça me traumatise pas, on va dire.
Est-ce que t'as une anecdote qui t'a particulièrement marqué, une interview que t'aurais faite, complètement cocasse, une rencontre absurde? Donc il y a eu
interview cocasse. Une interview cocasse.
Non, pas forcément cocasse, non. Tu vois, ou émouvante. Enfin, tu vois, un moment qui t'a particulièrement marqué dans les centaines de personnes que tu as rencontrées dans le cadre de ce travail.
En fait, c'est marrant parce que je peux être à la fois très émue et très marquée par quelqu'un de très connu avec un parcours de fou. Tu vois, par exemple, je le dis souvent, mais Nathalie Massenet, j'y pense encore aujourd'hui, tu vois. Quand je suis allée interviewer Nathalie Massenet et qu'elle était, elle avait lancé Net-à-Porter, elle était pas encore partie. J'ai fait l'aller-retour sur la journée pour aller la voir. Et je me souviens quand j'ai posé mes fesses dans l'Eurostar du retour, bah, pendant les 2h30, j'étais assise, je regardais dans le vague comme ça et je me disais, mais waouh, la nana qui a lancé ce truc-là, qui est allé au bout du truc, qui est parti de rien, un moment où sur le net, on n'achetait rien, enfin, et là, du luxe, enfin, tu vois. Et la manière dont cette fille n'a pas lâché et tout ça, et la vision. En fait, ce qui me bluffe souvent, c'est la façon, parce que moi, comme j'ai aucune vision de rien du tout, ce qui me bluffe, c'est la façon dont certaines personnes ont des visions sur leur truc. Tu vois, par exemple, pour revenir sur Mathilde, je l'avais interviewée pour le journal une fois. Elle avait 25 ans et la question c'était comment tu te vois à 30 ans? Et Mathilde m'a répondu cette phrase et elle m'a dit, elle était enceinte de son premier enfant, je crois. Et elle m'a dit, à 30 ans, j'aurais eu 3 enfants et j'aurais écrit un livre. je l'ai regardée, je fais, OK, on en reparlera.
On en reparle. Et oui.
Et je lui dis souvent, je lui dis, tu te rends compte que tu m'as claqué cette phrase et qu'avant tes 30 ans, t'avais tes 3 enfants et ton lit. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont des visions et puis d'autres qui sont complètement. Donc en fait, je suis touchée à la fois par ces gens-là parce que ça me bluffe énormément. Je me dis waouh, la détermination et tout. Et à la fois, je vais être touchée par quelqu'un qui est complètement freestyle, qui change de vie d'un seul coup, qui va tenter un. Tu vois, l'autre jour, je suis allée interviewer un petit jeune qui fait des assiettes en céramique tout seul dans son coin, des assiettes de fou d'ailleurs, et le mec m'a raconté pendant une heure et demie, d'ailleurs la story elle est à la une sur mon Insta, mais je suis sortie de là, je dis mais c'est génial quoi, le type qui se lance tout seul, qui fait ses trucs, ses assiettes, qui arrive à les vendre sur internet. Enfin, tu vois, donc c'est Nathalie Massenet, mais en même temps, ce petit gars, je le connaissais pas. Et comment il s'appelle d'ailleurs? Il est trop beau. D'ailleurs, je suis tombée amoureuse de lui pendant le truc. Je le regardais. Et tu vois, là, j'ai fait un truc pour Chaumet avec Marc Janson, qui est botaniste. En fait, ce qui est génial dans ce que je fais, d'ailleurs, je bénis le ciel à chaque fois, c'est que je rencontre plein de gens super différents. Et je me nourris. Mais comme un vampire, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si je buvais leur sang et je prends toute leur substance, je sais pas, vitale, je sais pas comment on peut dire ça. Je me nourris de ce qu'ils me disent. Et là, tu vois, j'ai rencontré Marc Janson, qui est botaniste. Et parce qu'il y a une super expo en ce moment aux Beaux-Arts autour de ça, avec Chaumet, etc. Mais ce type, je le connaissais pas et j'ai passé une heure avec lui. Mais il m'a hypnotisée, en fait. Et je me dis, mais j'ai une chance inouïe d'avoir accès à ces personnes-là, tu vois, et pareil, dans le train, je suis revenue et je pensais à Marc, qui, entre parenthèses, est très beau aussi, et je disais, mais c'est génial de rencontrer ces personnes-là, quoi. J'adore. Et ça, tu vois, Marc, par exemple, j'ai préféré rencontrer Marc et papoter avec lui et tout ça que de rencontrer Penelope Cruz, par exemple, tu vois. Donc, tu vois, ça n'a pas... Je me moque complètement du degré de célébrité de la personne que je rencontre, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont cette personne va me transmettre son truc, de l'émotion, en fait. Il est beaucoup question d'émotion, en fait, dans tout ça.
Une question quand même sur les vraies grandes célébrités. Tu parlais de Penelope Cruz. Je peux imaginer, quand tu arrives devant une personne comme ça, l'enjeu, c'est comment est-ce que j'arrive à faire en sorte qu'elle dise quelque chose de différent? Comment est-ce que j'arrive à faire en sorte que juste elle me prenne au sérieux? Enfin, tu vois, elle en a fait des milliers d'interviews. Elle en peut plus.
J'ai un secret pour ça.
Mais je veux ce secret.
Enfin, c'est un secret. Alors, on pourrait imaginer que c'est un secret de feignasse. mais ça ne l'est pas.
Mais attends, tant mieux.
Ça ne l'est
tant
pas.
Tant mieux, si c'est un truc qui marche et qui est pour les feignasses, c'est génial.
Ça ne l'est pas. En fait, quand j'ai commencé mon métier de journaliste et que je me souviens l'une des premières grosses interviews, j'étais excitée comme une puce, c'était ce réalisateur dont son acteur fétiche, c'est Johnny Depp. Merde, comment il s'appelle? Ah, bon, je retrouverai un réalisateur hyper connu dont j'ai évidemment oublié le nom, mais je retrouverai Tim Burton.
Tim Burton, merci. Ah oui.
Je commence à vieillir.
Tim Burton,
je te roule une pelle pour ça. et bref, c'était ma première grosse interview. Je me souviens, j'ai passé, mais je sais pas, des heures et des heures et des heures à préparer cette putain d'interview. Donc j'ai lu tout ce qui avait été écrit sur lui, j'ai écouté tout ce qui avait été fait. Je suis arrivée avec un dossier comme as, j'étais prête, tu vois, j'avais. Et ça, je l'ai fait pendant plusieurs années. J'étais prête et tout, j'avais tout, je préparais tout. Et en fait, mais je me suis rendu compte que c'était pas si bien que ça, parce qu'en fait, mes questions étaient du coup téléphonées, parce que je connaissais les réponses déjà aux questions. Parce que quand t'as tout lu sur quelqu'un, tu sais ce qu'il va dire. Ouais. Et en fait, je me suis dit un jour, tiens, je vais essayer un truc, je vais rien préparer. Je vais y aller comme ça, les mains dans les poches, et je vais voir ce qui va se passer. Et en fait, tu te rends compte que quand tu ne prépares. Alors quand je dis rien, j'exagère. T'as quand même les grandes lignes.
Mais tu sais qui est la personne.
Voilà, tu sais qui est la personne. Tu connais son actu parce qu'il faut pas non plus arriver comme une gourdasse. Mais tu creuses pas plus que ça. Et en fait, le fait de ne pas creuser plus que ça, et ben tu arrives à l'amener. Parce que en fait, il sent, cette personne sent que
t'es pas au courant, quoi.
T'apprends plein de choses et que t'es pas au courant. Et du coup, il se dit tiens, elle est pas au courant. Et t'arrives à l'emmener sur d'autres terrains. Alors que si t'arrives en mode, je connais toute ta vie, toi, je maîtrise tout, je sais ce que t'as fait là et là, bah le mec, il est très paresseux, on va dire, dans ses réponses, puisque de toute façon, il sent que toi, t'es pas animé plus que ça, et du coup, il va te répondre le minimum. Donc ça, c'est un petit secret que j'ai pour un secret de feignasse quand même, mais quand même, ça marche.
Interesting.
Interesting, hein.
Je te remercie. Bah écoute, tu vois, j'ai un peu appliqué.
Ouais, mais là, t'as pas trop creusé.
J'ai pas creusé, tu ouais. vois. Mais voilà. Bon, comme je te suis depuis un moment quand
oui,
même.
Oui, tu sais quelques trucs.
Je connaissais ouais. quelques petits trucs.
Ouais.
J'aimerais revenir sur ton enfance. Bon, tu vois, bah typiquement, je fais mal l'exercice parce que je sais que tu es rémoise.
ouais,
j'ai d'ailleurs des rèmes. J'ai ouais. des biscuits rèmes.
Ah énorme. J'en ai aussi dans mon placard.
Bref, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me parler de ton enfance, mais du coup, me dire ce que je ne sais pas, c'est-à-dire comment était ta famille, comment t'as grandi, comment t'étais petite, et peut-être aussi une question intéressante, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petite? Tu savais que tu voulais être journaliste?
Non, je voulais avoir une papeterie. J'ai toujours été complètement fanat du papier, des stylos, des gommes. Je collectionnais les petites gommes, les machins, les trucs. Et mon père me disait toujours... Alors, il hésitait. Il me disait, toi, plus tard, je t'achèterai une papeterie. Et j'étais là, yeah, je pourrais m'éclater avec tous mes cahiers et tout. Et puis, comme je parle très fort, t'as dû le remarquer, il m'a dit, j'hésite avec une poissonnerie. Parce que tu vois, donc mais je déteste le poisson. Donc, de toute façon, je me serais plus dirigée vers la papeterie. Non, j'ai toujours aimé ça et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis devenue journaliste parce qu'il y a j'ai encore un rapport au papier, j'ai encore un rapport à tout ça, tu vois, j'écris mes trucs beaucoup là. Quand je fais des fiches, j'ai encore un papier, un crayon, je le fais pas spontanément sur l'ordinateur, je suis un peu old school pour ça. Et mon enfance écoute sincèrement j'ai eu un bol de dingue parce que moi, mon enfance, c'était le pays des bisounours, quoi. Donc j'ai grandi à Reims. On habitait dans un petit village dans la montagne de Reims qui s'appelait Chigny-les-Roses. J'ai été élevée avec un grand frère qui a 3 ans de plus que moi et un petit frère qui a 11 ans de moins que moi. Donc c'était ma poupée. D'ailleurs, j'ai encore un lien avec lui qui est dingue. Il a 33 ans aujourd'hui et je l'appelle encore chéri. Enfin, tu vois, c'est ma poupée vivante encore aujourd'hui. Je sais pas si c'est très sain. Mais donc j'ai un lien très très proche avec mes deux frères. On a été élevés vraiment en pleine campagne avec des parents sincèrement géniaux parce qu'en fait, aucun sujet n'était tabou à la maison. On rigolait beaucoup. On n'a jamais manqué de rien, il y a jamais eu de problème. C'était le bonheur à l'état pur, quoi. C'était vraiment. Donc je suis très reconnaissante de tout ça parce que je pense que ça construit énormément la personne que je suis devenue aujourd'hui. En termes de confiance, en termes de tout ça, j'ai vraiment eu. J'ai été bénie, quoi. Donc ça, c'était mon enfance et mon adolescence. Et après, ça s'est un peu cassé la gueule parce que j'ai perdu mon papa à 20 ans. Très subitement d'un cancer en 2 mois. Donc bon, là on est passé du pays des bisounours à un truc beaucoup plus compliqué et beaucoup plus en tout cas d'un point de vue émotionnel et tout ça. Et puis tu vois, c'est quand même dingue parce que je pense que ce truc tragique, parce que mon père c'est quand même le pilier de la famille et c'était une sorte de super-héros, tu vois. Moi, mon père était intouchable. Donc, voir que tout peut basculer en deux mois, je pense que c'est ce qui m'a construit aussi aujourd'hui. Et toi, quand je te disais tout à l'heure, j'ai pas peur du ridicule, j'ai pas
rien
peur de tout
grave,
ça.
Rien n'est grave, ouais, c'est
voilà,
ça.
Voilà. Moi, tant que pour moi, perdre quelqu'un que t'as autant aimé, c'est ce qu'il y a de pire. Et moi, tant que ma famille se porte bien, je peux me prendre n'importe quelle réflexion par n'importe qui. Je n'en ai rien à faire, ça ne m'atteint pas. Et je pense que le départ de mon père m'a beaucoup aidée. Je dis souvent, c'est ma plus grande faiblesse et c'est ma plus grande force en même temps, en fait. Donc, ça m'a construite. Ça a construite aussi la personne que je suis aujourd'hui. Voilà. Mais bon, c'est pas évident. Mon petit frère avait 9 ans. Je te passe les détails, mais c'était très, très compliqué.
Je peux imaginer. Je voulais te demander, au niveau de tes parents, justement, quelles sont, selon toi, les valeurs les plus importantes qui t'aient transmises?
Énormément. Déjà, le respect de l'autre. Parce que je trouve que c'est primordial et c'est ce que j'essaye d'inculquer aux enfants. L'amour, parce qu'en fait, dans la construction de l'être que tu deviens plus tard, l'amour que te portent tes parents est capital en fait. Et on a tendance à l'oublier. Enfin, tu vois, moi je me le dis souvent quand je joue à les enfants, je me dis mais je veux qu'ils soient aimés, qu'ils soient machin, parce qu'en fait ça c'est un socle qui va te porter toute ta vie en fait. Et te donner des forces et te donner des ailes et tout ça. Donc moi je dis aux gens que j'aime tout le temps en fait que je les aime en fait. Et c'est hyper important de savoir dire aux gens qu'on les aime. Voilà, c'est que enfin après je sais que c'est compliqué, certaines personnes sont très pudiques, certaines personnes tu vois c'est ont du mal mais moi ça m'a porté et je veux que ça porte mes enfants et voilà donc l'amour et puis bah, après j'ai été bien élevée quoi, je sais à peu près même si là je suis mal assise sur ton canapé comment me tenir, enfin tu vois des choses toutes simples mais qui font que ça te permet après d'avancer dans la vie beaucoup plus facilement en fait. T'as des outils. Donc ça t'aide. Tu t'en rends compte.
Et comment est-ce que tu décides de devenir journaliste? Parce que je comprends le lien entre papeterie et journal, mais bon.
C'est souvent ce que je dis. C'est en fait. Toi, tout à l'heure, je t'ai dit rien n'est planifié, rien n'est tout ça. Moi, j'étais pas du tout partie pour être journaliste. J'étais partie pour être traductrice de bouquins parce que j'étais assez timide.
Anglais, français.
Ouais, plutôt. J'étais assez timide, assez casanière. D'ailleurs, je le suis encore. C'est-à-dire que je fais beaucoup de trucs pour le boulot, mais quand je suis chez moi, j'adore être chez moi. Enfin, tu vois bien. Et je m'étais dit, ah, c'est cool, ça, t'es chez toi, peinard, tu bosses avec tes dictionnaires, tu traduis tes trucs. Donc, j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée. Dans le but de devenir après traductrice de bouquins. Et j'ai fait ça à Strasbourg. Et pendant que je faisais ça, donc quand j'étais en dernière année de licence, mon grand frère, qui était aussi à Strasbourg pour faire ses études, et qui est un entrepreneur dans l'âme, qui entreprend plein de trucs, quand il avait 21 ans, on va dire, à peu près, a lancé un journal étudiant qui s'appelait Le Malin. C'était un journal gratuit pour les étudiants. Et il m'avait filé la rubrique littéraire. Donc j'étais chargée d'interviewer, on était maquillés avec la librairie principale de Strasbourg, qui s'appelait la librairie Kléber, je m'en souviens.
Cool.
Et on était maquillés avec cette librairie-là, qui recevait chaque mois des auteurs qui venaient parler de leurs bouquins. Et moi, à chaque fois, avant que l'auteur fasse sa petite conférence, j'allais l'interviewer dans une petite salle et tout, et je faisais cet article-là pour Le Malin. Et j'ai adoré. En fait, j'ai adoré, je me suis rendu compte que j'avais une curiosité en moi, j'ai adoré aller poser plein de questions, j'adorais après me prendre la tête sur mon papier, essayer de trouver les bons mots, essayer de retranscrire au plus juste ce que j'avais ressenti. Et je me suis dit, putain, mais journaliste, en fait, c'est pas mal, quoi. Et donc, je m'étais dit, je vais plutôt me diriger par là. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'en fait, rien n'est prédéfini. Et dans la vie, il faut jamais se mettre dans une case et se dire, je veux faire ci. En fait, il faut faire confiance aux rencontres. Et aux choses qui t'arrivent dans la vie, ce n'est que des rencontres, en fait. C'est que ça. Et tu vois, là, si Antoine, mon grand frère, n'avait pas monté ce truc-là...
Tu serais jamais devenu journaliste.
Mais quand il me l'a proposé, j'ai dit, bah, pourquoi pas. Et c'est parti comme ça. Et en fait, je devais faire le QEJ, qui est une super bonne école de journalisme à Strasbourg. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu mon papa. Et à l'époque, il n'y avait pas les TGV, tout le bordel. Et donc, j'ai quitté Strasbourg pour venir m'installer à Paris pour être plus proche de Reims. Et je me suis retrouvée dans une école de journalisme qui s'appelle l'ESJ, qui est loin d'être la meilleure école de journalisme de Paris. Enfin, tu vois, je suis honnête.
Et ça ne change rien, visiblement.
Mais j'ai fait beaucoup de stages. J'ai utilisé cette école pour faire beaucoup de stages. J'avais plein de conventions de stages. Et en fait, j'étais plus en stage qu'à l'école. Et c'est important de le dire, parce que je ne sais pas si tu es suivie par des jeunes qui font des stages.
C'est même plus important, franchement, mais
bien
que
sûr,
le diplôme.
Mais bien sûr, parce qu'en fait, tu prépares ton réseau, tu rencontres des gens, et c'est en rencontrant un tel que tu vas aller rencontrer un tel, qu'un tel va parler de toi. Et donc, en fait, il faut pas hésiter à s'ouvrir sur l'autre et multiplier les stages, même si au début, un stage, tu te dis, ça va être relou. Tu t'arrives toujours à tirer quelque chose de positif d'un truc. Donc, et surtout, dans ce métier de journaliste, c'est important de commencer à créer un petit peu ton réseau, les bonnes personnes qui vont après réussir à te faire rentrer un tel. Enfin, voilà. Donc, il faut faire des stages. Et puis après, j'ai commencé à bosser en tant que pigiste, notamment pour le Madame Figaro qui m'a embauchée par la suite. Voilà.
J'aimerais revenir sur la notion de saisir des opportunités, parce que tu parlais de ton frère, là, du journal. Ouais. Et en gros, tu dis, allez, pourquoi pas. Et en fait, je trouve ça marrant parce que j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe dans ta personnalité, que tu es plutôt quelqu'un qui est assez partante, justement, pour tenter des choses. Ouais. Donc là aussi, peut-être Montréal, tu vois, tu nous dis, finalement, j'ai lancé le truc, on verra bien, quoi. Mm. Et je trouve ça hyper rafraîchissant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, CF Mathilde Lacombe, qui ont un plan, veulent suivre le plan, et en fait se disent que si c'est un peu le bordel, que c'est foireux et que juste...
Je pense que ça lui ferait peur.
Ouais.
Oui, non, mais c'est pour ça, je te dis, je pense que c'est vraiment des questions de tempérament, parce que je serais incapable d'être comme Mathilde, et d'ailleurs, je te dis encore une fois, ça me bluffe, je me dis... Oh. Putain, mais c'est super millimétré, quoi. Mais en fait, je pense que tout est une question de tempérament, et moi, je suis très bordélique. Après, je ne te dis pas que ça ne me fait pas peur.
D'être bordélique.
Ouais. Parfois, là, tu vois, là, Montréal, par exemple, typiquement, toi, parfois, je suis dans la rue. Là, on vient de vendre notre maison, par exemple, tu vois, donc c'est un gros changement. Je me dis, mais t'es complètement folle, mais t'es folle, en fait, tu vois. Donc, j'ai des gros moments de doute.
Parce que j'ai eu la même avec le déménagement en Suisse.
Voilà, tu vois, tu dis... Puis après, une heure après, tu sais pas pourquoi, t'es là... Mais non, c'est cool. Et puis tu sais, tu passes par l'ascenseur émotionnel. Et puis après, je me raisonne et je me dis, bon, encore une fois, il y a rien de grave et tout ça. Mais en fait, je pense que c'est plus... je ne choisis pas d'être comme ça, je le suis... j'aimerais bien parfois être beaucoup plus organisée, figure-toi, tu vois. Non, mais je te jure, j'aimerais bien. Mais c'est pas en moi, je suis pas comme ça. Je peux pas aller contre nature, en fait.
Et tu dirais que t'es quelqu'un qui sait bien saisir des opportunités, ou plutôt saisir de bonnes opportunités, parce que tu vois, aujourd'hui, t'es dans une situation où je pense que t'es très sollicité. Donc en fait, les opportunités, les trouver, c'est plus tellement le problème.
Non.
Le problème, c'est de savoir les choisir. Donc ma question maintenant, c'est, avant, quand t'étais plus jeune, il fallait savoir choper le bon stage, les bons contacts, c'était autre chose, c'était savoir trouver la bonne.
Je suis d'accord avec toi.
Et maintenant, c'est...
T'as tendance à tout prendre, d'ailleurs.
Exactement.
Et j'ai fait des erreurs comme ça, tu vois, parce que quand j'ai commencé à bosser pour Madame Figaro, j'étais pigiste. Et j'ai été pigiste, donc j'avais 26 ans. 25, 26. Ouais, non, j'avais 24 ans et je suis restée pigiste 2 ans et ils m'ont embauchée quand j'avais 26 ans. Eh ben, tu vois, ce serait à refaire, je le ferais pas. Et je pense que j'ai été guidée par des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'à 26 ans, je me suis dit, sécurité de l'emploi, vas-y, quoi, fonce. Et avec du recul, moi, j'étais pas faite pour être intégrée dans un journal et assise derrière un ordinateur, parce que c'était le cas quand je suis arrivée là-bas. Et en fait, j'aurais dû rester pigiste, parce que quand t'es pigiste, ok, t'as pas la sécurité de l'emploi, mais t'es un zébulon, tu peux...
Oui, puis tu peux travailler pour plusieurs journaux.
Exactement, tu peux faire... Alors, ça fait peur, parce que parfois, t'as des mois blancs, c'est-à-dire qu'il se passe rien, mais t'as une espèce de liberté... et qui est hyper appréciable. Et si c'était à refaire, je pense que tu vois, je me suis laissée guider par des mauvaises raisons. Mais j'étais jeune. Donc en même temps, je me dis, bon, voilà, t'étais jeune, tu savais pas où la vie allait. Et puis, en un poste, Madame Figaro, ça se refusait pas, tu vois. Mais tout ça pour dire qu'il faut savoir aussi se faire confiance un petit peu et s'écouter. Je sais plus ta question, je suis désolée.
Ma question, c'était comment est-ce que maintenant tu choisis les opportunités, maintenant que t'en as plein qui te tombent dessus?
Eh ben, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je fais confiance à mon instinct et je veux que le projet me plaise. 2, que l'équipe soit sympa. parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont pas cool. Et c'est pas cool de bosser avec des gens pas cool, ça peut vite devenir un calvaire.
C'est un bon point, ça.
Voilà, ça peut vite, si tu vois que l'ambiance va pas être bonne, qu'ils vont te saouler, que c'est pas dans un bon esprit, mais je veux même pas le faire, en fait, parce que, mais parce que je peux me le permettre de pas le faire. Donc ça, c'est un luxe énorme. Mais moi, je veux bosser dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, avec des gens bienveillants, et prendre beaucoup de plaisir. Donc, et pour le moment, j'arrive à le faire.
Touche du bois.
Touche du bois.
Toujours, toujours.
Ça t'est arrivé de faire une des erreurs de jugement, alors, et de te dire, là, en fait, ce truc-là, fallait pas que je le fasse, ou
récemment?
Ouais, récemment. Pas quand t'étais plus jeune, justement, avec, par exemple, Madame Figaro, le fait d'être pigiste ou pas. Mais plus récemment, tu vois, te laisser un peu embarquer.
Récemment, tu vois, par exemple, là, je fais un truc pour L'Oréal. C'est une émission sur YouTube qui s'appelle Run Hair Show.
Et tu le vaux bien.
Parce que je le vaux bien.
Voilà.
Et ce truc-là, on me l'a proposé il y a un an et j'étais à deux doigts de pas le faire. Alors que tout était merveilleux. Hein. Parce que le show est en anglais. Parce que je mettais le doigt dans un truc que j'avais jamais fait. C'était filmé. L'anglais, en fait, surtout. Parce que je parle anglais, mais je suis pas fluent. Donc, je m'étais dit, putain, ça va être super chaud et tout. Et j'en parlais avec mon mari et j'étais à vraiment deux doigts de leur dire non. Et finalement, je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Et je regrette pas parce que, en fait, c'était très difficile les deux premiers. Et après, tu maîtrises mieux, t'apprends à maîtriser, etc. Donc, en fait, si je te raconte ça, c'est que parfois, il faut savoir aussi aller contre ton instinct qui naturellement me disait, là, tu vas t'embarquer dans un truc où ça va être compliqué. C'est des énormes équipes. Est-ce que t'as envie de ça? Tu sais, moi, j'aime bien un peu l'artisanat, entre guillemets. Donc, j'aime bien faire mes trucs avec des marques sympas. Tu vois, là, je sentais que le truc pouvait m'échapper.
Une grosse machine, ouais.
Ouais, pouvait m'échapper. Et mon instinct me disait... Et là, pour une fois, je dis, allez, je vais quand même... on va y aller parce que je suis aussi... J'aime bien les challenges. C'est un peu relou, mais... j'aime bien les challenges et là je m'étais dit le challenge il est quand même sacrément difficile à relever et tu sors vraiment et du coup je l'ai fait et aujourd'hui tu vois je regrette pas parce que ça y est je maîtrise j'ai compris le truc, je maîtrise le truc. Mon anglais, je peux pas avoir la même spontanéité en anglais qu'en français mais bon. J'essaye de faire en sorte que ça puis j'essaye de jouer aussi là-dessus en me disant ouais, peut-être, au moins... peut-être qu'ils vont aimer mon franglais, tu vois. Et d'ailleurs ça passe très bien. Donc ça c'était un exemple de truc que j'ai failli pas faire et que
mais
j'ai
c'est
fait.
Intéressant parce que c'est tu dis que tu suis ton instinct mais de temps en temps faut ouais. accepter en fait de ne pas vraiment le suivre pour aussi te sortir de ta zone de confort
ben,
quoi.
Ouais, mais j'ai fait une entorse à mon truc parce que vraiment normalement je fais pas tu vois quand je sens pas quelque chose bon là j'ai pas senti quelque chose pour une marque que je peux pas te citer parce que
bien sûr.
Je peux pas la citer c'était énormément d'argent je l'ai pas fait parce que ça me correspondait pas en fait la marque me correspondait pas et en fait je vois pas le sens à ça. Enfin, je veux dire, je suis pas un panneau publicitaire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas un mannequin moi qui peut. Moi, ce que je monte sur Insta, c'est ce que je ressens. C'est vraiment ma personnalité. Donc, je peux pas aller non plus n'importe où et faire n'importe quoi. Et j'ai pas envie d'ailleurs. Parce que j'ai pas envie de prendre les gens qui me suivent. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui me suivent. D'ailleurs, ils sont super cool. Moi, j'ai la meilleure communauté au monde. Ils sont hyper bienveillants et tout. Et je veux pas les prendre pour des abrutis en fait. C'est pas le truc. Donc, je dis non. Mais faut pas avoir peur de dire non parfois, hein. Tu sais. En fait, les gens souvent ont peur de dire non. C'est pas facile de dire non.
Comment est-ce que tu dis non? Comment est-ce que quand t'as une boîte comme ça qui te sollicite, tu vois, pour ne pas dénigrer,
mais je suis
ne
cash.
Pas être...
Je dis de manière très respectueuse. Je leur dis, je suis désolée, mais la marque ne me parle pas et et ils le comprennent d'ailleurs généralement. Ils me disent bon, d'accord, on n'insiste pas. Mais en fait, je préfère être transparente.
Oui, t'essayes pas de trouver des fausses excuses.
Non,
quoi.
Parce que trouver des fausses excuses, après, la marque, elle revient vers toi.
Ouais.
Parce que tu sais, si t'essayes de botter en touche en mode « je peux pas, j'ai pas le temps », 6 mois plus tard, tu retrouves le même message, t'es là « non, mais en fait, je peux toujours pas ». Et puis après, tu prends encore les gens pour des abrutis. Donc en fait, je préfère être cash dès le début, mais gentiment, tu vois. Mais dire les choses, c'est beaucoup plus respectueux de dire les choses.
C'est clair.
Que tu sais de... Voilà, donc voilà.
Peggy, on arrive au moment de mon crible, les questions que je pose à chaque fois à mes invités.
J'ai peur.
Je sais que tu ne les as pas préparées.
Non.
Mais c'est pas grave. Justement, ça sera encore mieux.
Non,
mais
c'est pas des questions de culture générale.
Quiz. Bon, je devrais l'appeler le quiz. Non. Première question. Est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec? dont tu pourrais me parler parce qu'il t'a appris quelque chose d'important sur la vie, sur toi-même, sur tes proches.
Un énorme échec.
Un énorme, je sais un pas, échec, mais un quoi. Échec qui a compté pour toi.
C'est horrible de dire que j'ai pas d'échec. Attends, je dois en avoir. Qu'est-ce que j'ai comme échec? Un échec qui a compté pour
ou
moi.
Un moment difficile, tu vois.
Ouais, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Quand j'ai accepté ce poste au Madame Figaro, les trois premières années, j'ai été très malheureuse.
Ah ouais,
très vraiment. Très malheureuse.
Parce que
ouais.
T'étais derrière un bureau.
Ouais, parce que je suis arrivée dans une rubrique où je pensais qu'on allait me dire Peggy va interviewer un tel, va interviewer un tel, de manière très naïve, alors qu'en fait on me demandait de rester derrière l'ordinateur, de rentrer des papiers dans l'ordinateur, de faire du rewriting, c'est-à-dire réécrire des articles quand ils sont pas super bien. De faire la passerelle entre les secrétaires de rédaction, la maquette, etc. Et en fait, j'avais complètement perdu l'essence, enfin le truc qui m'animait dans mon métier de journaliste, c'est-à-dire aller interviewer des gens. Et je le faisais plus. Donc j'ai été très malheureuse. Ce qui m'a d'ailleurs donc c'est ce qui peut se voir que je disais que j'ai été happée par des mauvaises raisons. Ce qui m'a d'ailleurs amenée à donner ma démission, parce que au bout de 3 ans, j'ai donné ma démission au Madame Figaro. Et là, ma big boss Anne-Florence m'a dit très bien, ok, on accepte ta démission, mais je te passe dans la partie magazine. Et là, je suis restée pigiste. En fait, quand j'ai quitté le journal là il y a 3 ans, j'étais redevenue pigiste régulière. Mais j'ai filé madame en fait parce que je ça me plaisait pas, ce statut-là me plaisait pas. Donc ça, c'est un échec, mais qui, comme tu le dis, m'a permis de savoir finalement vraiment ce que je voulais en fait, et ce que je voulais, c'était vraiment aller être sur le terrain. Et aller interviewer des gens et aller me nourrir, en fait, de ça. J'étais pas faite pour être derrière un ordi. C'est pour ça que je te dis que je pense que j'ai pris ce poste au départ pour des mauvaises raisons. Et que de temps en temps, il faut vraiment s'écouter. Mais alors, je sais bien qu'il y a l'appât du gain. Je sais bien que c'est hyper important.
Et puis la sécurité.
La sécurité, c'est hyper important.
Et puis aussi le regard. Enfin, je peux imaginer, tu vois, avoir un job, Madame Figaro. Enfin, je pense à toutes les personnes qui nous écoutent, qui peut-être cherchent un premier boulot. Tu dis, bon, bah, j'ai envie de faire une boîte de classe.
Ouais,
c'est
ça fait
cool.
Rêver.
Je pourrais en parler à mes copains et à mes amis et dire, je suis Madame Fig. Enfin, tu vois.
Ouais, tu te la joues, quoi.
Un petit peu, quand même.
Ouais, pas tant que ça, mais je te dis, mais bon, t'avais 26 ans, t'es jeune. Donc ça, tu vois, ça peut être un échec.
Hyper intéressant. S'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie perso, pro, qu'est-ce que tu referais différemment?
Eh bien, il y a trois mois, je t'aurais répondu partir à l'étranger, parce que c'était un rêve que je m'interdisais, en me disant que c'était trop compliqué, que ça allait être trop compliqué par rapport à la famille, par rapport au boulot, par rapport à tout ça. Donc, je t'aurais répondu ça. D'ailleurs, j'ai répondu à un podcast de Miss Maggie's Kitchen que j'adore, je sais plus quand. Et elle m'a dit un rêve que t'as, et je lui ai dit ça. Et je lui ai dit, tu vois, c'est un rêve que je ne réaliserai jamais, et je sais que je vais le regretter. Et donc, je t'aurais répondu ça. Mais aujourd'hui, je peux plus te répondre ça puisque je pars.
Tant mieux.
Donc, je suis très contente d'être allée au bout de ce truc.
Et ben,
même si je me plante, c'est pas grave.
Bravo,
je l'aurais fait.
Toi. Bravo à toi. Est-ce que t'as une maxime, une citation qui te plaise particulièrement? Peut-être que tu vois, t'as noté quelque part, que tu te répètes de temps en temps et que tu pourrais partager.
Bah, ce dont on parlait tout à l'heure, c'était le make it happen. Là, je te l'ai dit à la française, make it happen.
C'est le petit côté L'Oréal.
Make
quoi.
It happen.
C'est ton franglais.
Ouais, c'est ça, c'est mon franglais.
Mais il faut que tu cultives le côté accent français
quand
tu seras à Montréal.
Naturellement, de toute façon.
Cultive-le, garde-le. Tu vois, c'est encore le côté
feignasse,
mais.
Ouais, exactement. Exactement. T'as vu, en fait,
il y a un truc. Il y a un truc.
Mais on m'a pas encore vraiment démasqué.
Mais c'est ça qui marche, tu vois. Donc, tant mieux.
Non, je suis une vraie feignasse. Non, mais ça, c'est hyper important et c'est, faut se bouger parce que c'est pas en restant enfermé chez soi et en attendant que ça vienne, ça viendra pas en fait. Les choses ne viennent pas toutes seules. Et moi, ma grand-mère me disait souvent, Peggy, on a la vie que l'on se fait. Et en fait, c'est vrai. Tu as la vie. Toi, par exemple, là, quand j'ai annoncé sur Instagram que je partais à Montréal pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, je n'en sais rien, les gens m'ont dit, oh, mais quelle chance!
C'est pas une chance, ouais.
Non, ce n'est pas de la chance en fait. Je me suis bougé le cul via énormément de remises en question, de peur, de doute, de machin. Donc c'est pas quelque chose qui est tombé tout cuit. On peut pas dire que c'est de la chance. Et en fait, il y a très peu de choses qui arrivent par chance en vrai dans la vie, sincèrement. Si j'ai peut-être eu la chance de tomber dans une famille merveilleuse. Alors voilà, ça c'est de la chance parce que tu décides pas dans quelle famille tu nais et tu décides pas si tu vas naître avec un membre en moins, un pied en moins, une maladie, un machin. Voilà, donc t'es chanceux quand t'es en bonne santé et quand voilà. Mais sinon pour tout le reste, mais c'est le fruit de ton travail et c'est le fruit de l'énergie que tu vas y mettre en fait. Et cette énergie, faut aller la chercher parfois.
Est-ce que tu as une croyance qui est controversée ? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu constates qu'autour de toi, ça peut être en France, ça peut être dans le monde, globalement, les gens ne sont plutôt pas d'accord avec une conviction que tu as, toi, personnellement ? Pas une question facile.
Non, c'est pas une question facile.
Je te donne un exemple,
ouais,
si
vas-y.
Tu veux. J'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont dit, par exemple, je crois Nicolas Santivet, le CEO d'Ami, m'a dit, moi je suis convaincu qu'on peut réussir en étant gentil. Et la plupart
ah oui,
des gens
ça,
sont persuadés que t'es obligé d'avoir les crocs qui règlent le parquet, etc.
Non, non,
donc,
je suis d'accord avec lui.
Ce genre de, tu vois,
ouais,
de raisonnement.
Non, je suis d'accord avec lui. Et je dirais même gentil et que l'humour peut faire avancer beaucoup de choses et non, ça, je suis d'accord avec lui. Je sais pas si ça rentre dans ton sujet, mais moi j'ai énormément d'amis autour de moi qui se bardent de nounous dans tous les sens parce qu'elles sont persuadées que dans la vie pour réussir il faut avoir une nounou parce que tu peux pas mener de fond, enfin de front ta vie de maman et que pour pouvoir réussir professionnellement il faut absolument être très bien entouré à ce niveau-là. Ben moi je pense pas.
Bah
après, c'est personnel. Moi, je n'ai pas de nounou. Je n'ai jamais eu de nounou. Mais je pense que j'aurais été très malheureuse de confier mes enfants. Alors après, c'est vraiment très personnel de confier mes enfants à une nounou. Donc en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et tout ce que j'ai essayé d'articuler jusqu'à maintenant, c'était mon luxe, en fait. Je le dis souvent, hein. Mon luxe, c'est d'aller chercher mes enfants à l'école. Ce n'est pas d'avoir la nounou. Alors que contrairement, mes potes, leur luxe, mais elles me le disent comme
ouais.
C'est d'avoir la nounou pouvoir, voilà. Moi, mon luxe, c'est de pouvoir être à 16h30 devant la sortie de l'école de mes enfants. Alors que maintenant, c'est des ados. Mais bon, de toute façon, ils n'ont pas le choix. On est à la campagne, donc je suis obligée d'aller chercher. Et je kiffe ce moment d'une force que tu peux même pas imaginer. Et la manière dont je vis mon boulot aujourd'hui, et la manière dont j'ai dit non à des postes importants parce que je savais que je pourrais plus faire ça. Et je ne voulais pas. Donc j'ai dit non à beaucoup d'argent parfois. J'ai dit non, mais en fait je savais que j'allais tirer un trait sur ça et je ne voulais pas. Donc en fait, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en fait je pense qu'on peut réussir tout en étant aussi là pour les enfants. En fait, tout est une question de Mathilde le dit très bien, de trouver ton équilibre et ta force, etc.
Et savoir ce qui compte pour toi aussi.
Exactement. Donc ça, c'est un débat qu'on a. Je t'en parle parce que c'est un débat que j'ai avec beaucoup de potes.
Mais c'est intéressant que t'en parles parce que bon, il y a aussi beaucoup de femmes. Enfin, il y a à peu près 50% d'hommes, 50% de femmes qui écoutent le podcast. Mais je pense qu'il y a effectivement beaucoup de charge mentale et puis tu vois de culpabilité quoi.
Oui.
Sur
ce genre
de sujet.
Ouais.
Donc.
Alors après, moi, j'ai des amis qui me disent « Ah non, mais moi, aller chercher à l'école, les devoirs, le machin, le tout ça, non. » Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est aussi une question de tempérament et de... Et je ne juge pas, d'ailleurs, mes potes qui me disent ça, tu
vois. Mais tu dis « Si ça compte pour vous, c'est possible. »
Exactement. Si ça compte pour toi, tu peux organiser ta vie. Alors, j'ai peut-être un métier qui s'y prête aussi. Hein. C'est peut-être
sûr.
Aussi...
Mais
voilà.
T'as choisi, justement.
Mais je l'ai choisi. Et j'ai choisi d'aller comme ça pour pouvoir faire ça, en fait. Et je pense que c'est possible. Voilà, je pense que c'est possible d'avoir de s'épanouir professionnellement parlant et de rester là aussi et d'aller chercher tes gosses à l'école si ça te fait plaisir d'aller les chercher à l'école tous les jours. Et je n'ai pas honte de le dire parce que parfois c'est une honte, tu sais, de dire ah, moi je suis à la sortie de l'école avant tous les jours sauf pendant les Fashion Week, ton téléphone sonne. Mais en fait j'assume complètement ce côté-là. Je suis pas une businesswoman avec des comment te dire Moi, je pense que tu l'as compris, en fait, dans la vie, je prends du plaisir dans tout ce que je fais, ce qui est complètement crétin, parce que il y a des gens qui vont me regarder et dire « elle est maligne, elle », mais en fait, c'est pas si facile que ça. C'est vrai, c'est pas si facile que ça. Mais moi, mon kiff, c'était de faire ça et de mener ça comme ça. Et donc, j'ai cousu...
T'as organisé ta vie, quoi.
En fait, c'est de la couture. Donc, j'ai cousu mon truc qui me va. Voilà. Faut coudre votre truc qui vous va.
Ça va être le titre de l'épisode. Couser. Je sais même pas.
Sortez les aiguilles. Sortez les aiguilles.
Ah là là. Un sujet sur lequel tu as changé d'avis dans le cadre de ta vie, justement.
Est-ce que... là là, mais c'est des questions super pièges.
Ouais. Bah, piège, non, mais.
Est-ce que j'ai changé d'avis sur des choses? Est-ce que j'ai certainement changé d'avis, dû changer d'avis sur plein de trucs? J'ai changé d'avis sur Paris, déjà. Parce que j'ai habité Paris pendant 12 ans. Pia est née à Paris. J'ai surkiffé ma vie à Paris. Et puis j'ai plus aimé Paris.
Est-ce que c'est que t'as changé ta vie ou est-ce que Paris a changé? Je ne sais pas.
Attends, quand je suis partie, c'était il y a 10 ans, 11 ans. Et Paris n'était pas le Paris d'aujourd'hui. Donc donc j'étais en amour pour Paris, j'ai surkiffé Paris. Et après aujourd'hui, tu me dirais Peggy, est-ce que tu pourrais revenir à Paris aujourd'hui? Et ma réponse serait non, je ne pourrais pas parce que je me suis habituée à plein d'autres choses et c'est peut-être une organisation de prendre son train, etc. Tu le payes hein, parce que c'est un sacrifice. Moi, je dis non à plein de dîners, je dis non à plein de soirées, je dis non à plein de trucs, je me coupe de plein de trucs. Mais c'est pas grave.
Oui, t'as l'air de voir quand même pas mal de monde.
Voilà, c'est pas grave. Donc ouais, j'ai changé d'avis sur Paris. Mais tu vois, j'ai re-changé d'avis sur Paris parce que le fait d'aller m'installer à la campagne me fait voir Paris d'une autre façon. Et aujourd'hui, quand je viens à Paris 2-3 fois par semaine et parfois une semaine quand j'ai mes trucs, eh ben je regarde Paris avec un autre regard et je ne vois plus les emmerdes que t'as à Paris, mais je vois la beauté de Paris. Mmh. Tu vois, l'autre jour, je suis allée à pied, j'ai traversé le Pont des Arts pour aller je sais plus où. Bah tu vois, chose que je ne faisais pas quand j'habitais à Paris, et je me suis arrêtée sur le Pont des Arts, je me suis assise sur le banc. 5 minutes, tu vois, pas longtemps. Mais j'ai regardé Paris, chose que je ne faisais plus quand j'habitais à Paris, en fait. Donc finalement, exactement. Et voilà, il y a ça, sur quoi j'ai changé d'avis. T'as des trucs, toi? Tu changes d'avis sur des trucs souvent?
Moi, je change d'avis assez facilement, ouais. J'ai des avis forts, mais j'arrive assez facilement à changer d'avis.
Ouais, j'ai changé d'avis sur un truc mode. Je pensais que ça allait marcher. Ça n'a pas du tout marché sur le See Now, Buy Now. Tu vois, quand des marques lançaient des collections que tu pouvais acheter tout de suite, des marques de luxe, hein, parce qu'ils ont voulu se mettre au rythme d'Instagram et du « je veux tout de suite ». Donc, tu as beaucoup de marques qui ont lancé des collections où tu voyais, normalement, quand tu vois une collection sur un catwalk, sur un défilé, la collection débarque dans les magasins 5 mois après. Et là, ils ont voulu être raccord et montrer des choses qui débarquaient en magasin tout de suite. Ça n'a pas marché. Je pensais que ça allait marcher, bêtement. Et en fait, non. Et tu vois, je suis revenue là-dessus et je me dis, mais en fait, c'est vachement bien de revenir à ce rythme normal de défilé avec les fringues qui arrivent 6 mois plus tard. Il faut revenir à ça. J'ai changé d'avis aussi sur... Ah, tu m'as embarqué sur un truc.
Mais vas-y, on a tout le temps.
Les marques qui font des choses comme Adrien Réuni.
Adrien Réuni ouais, de
sur produire à la demande. Alors je trouve ça génial. Mais d'ailleurs c'est un message pour Adrien.
Adrien, si tu nous écoutes.
Il faut réduire le temps. C'est
de,
trop long.
De précommande.
Ouais. Moi je suis d'accord pour précommander des choses, mais quand ça arrive dans un délai maximal de 1 mois, et je suis large. Quand c'est 2 mois. C'est trop long. Ça, tu vois, au début, je pensais que je m'y ferais. Et en fait, je trouve ça trop long. Donc ça, j'ai évolué là-dessus aussi.
Bah, nous, on constate ça parce que tu sais, on fabrique des bijoux sur mesure chez Gemio. Les gens sont tout à fait prêts à attendre 2-3 semaines sans problème.
Ça fait long.
4 semaines, ça va. Quand tu passes à 6 semaines, devient plus compliqué.
Tu vois, Linéa Lund, je crois que tu as ton cachemire en 1 semaine. Parfait. Mais dès que tu passes ce délai fatidique du mois... Bon, ça... Donc, tu vois, il y a des choses comme ça. Mais bon, après, c'est au fil du temps quand tu explores les choses et tout ça. Alors aussi, je pensais que j'allais plus jamais acheter de fringues parce que pendant le confinement, j'ai trié tous mes trucs, là, mon dressing. Et je me suis dit, oh là 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 là, malheureuse, mais... Pff. Et en fait, j'ai vite changé d'avis parce que j'ai vite racheté des fringues également, tu vois. Donc, sur ce genre de choses, je change très vite d'avis, en fait. Mais sur des choses essentielles, parce que ça, c'est très léger, sur des choses essentielles, sur quoi j'ai changé d'avis dernièrement? Pas sur grand-chose, je crois. Non.
Bah écoute, c'est une réponse aussi.
Si je pense à un truc, je vous rappellerai.
Tu me diras. Dernière question, est-ce que tu as un livre qui t'a particulièrement marqué, que tu pourrais me décrire? Et pourquoi est-ce qu'il t'a marqué autant, qui t'a peut-être même changé, qui a influencé, tu vois, tes réflexions, la personne que t'es devenue?
Alors, c'est pas un livre qui a changé quelque chose dans ma vie. Enfin, non, c'est pas un livre que j'ai lu il y a longtemps. C'est un livre que j'ai commencé à lire il y a 3 ans et que je relis au moins une fois par an. Et c'est Les 4 accords Toltec. Parce que plusieurs personnes m'en avaient parlé en interview. Et je m'étais dit, je vais pas mourir débile, je vais quand même aller voir ce que c'est. Donc c'est un livre via, maintenant il y en a 5 d'ailleurs, via 5 accords qui te permettent de faire un vrai travail sur toi en profondeur et qui te permettent, soi-disant, de toucher au bonheur et en tout cas de devenir une meilleure personne. Donc il y a 4 accords qui sont très difficiles à tenir, à savoir... ne pas avoir d'idées préconçues, à savoir ce qui est très difficile de pas avoir d'idées préconçues. Enfin, il y a 4 accords, je sais plus. Tu vois, faut que je le relise parce que la dernière fois que je l'ai lu, c'était il y a 8 mois. Donc à chaque fois que je le lis et je le lis avec un œil différent, ce qui est exceptionnel parce que c'est le livre est exactement le même, mais en fait comme toi, t'as avancé un peu dans ta vie, tu n'as plus le même regard, donc c'est intéressant de le lire régulièrement. Et à chaque fois, je m'y tiens, c'est-à-dire que j'arrive à essayer de suivre ces 4 accords qui sont très durs. Attends, il y a quoi?
Il y a pas dire dire ce qu'on fait ou un
voilà,
truc genre,
dire ce qu'on fait, ne pas avoir d'idées préconçues.
Je les connais pas par cœur.
C'est super dur, hein. Ne pas médire sur les autres, alors ça c'est super dur parce que parfois t'as envie quand même de, tu vois. non mais c'est vrai, on est tous humains, donc de temps en temps tu lâches le truc. Donc j'arrive à les tenir généralement 1 mois. Et après, je retombe dans mes travers.
Et tu le relis.
Et du coup, je me dis, Peggy, sonnette d'alarme. Il faut que tu relises les 5 accords Toltec. Ouais. Mais je vous le conseille parce que ça fait réfléchir sur pas mal de trucs.
Et j'essaye de retrouver, mais je les trouve pas.
Vous les trouverez très facilement. Hein. Mais tu vois, je t'en parle et je me dis, je vais le mettre dans mes lectures de vacances. Je vais le re-glisser dedans. Alors, et je le lis avec un stabilo.
C'est...
Tu vois,
tu lis en profondeur. Mais fun fact, tu es, je crois, la 3e ou 4e personne. Bon, alors après, en quasiment 200 épisodes de podcast qui me cite ce livre.
Ouais.
Je ne l'ai toujours pas lu.
Faut que tu le lises. Faut
et que tu le lises pendant les vacances. Je pense que là, c'est
lis-le
bon.
Pendant les vacances.
C'est le coup près, là. Lis-le
pendant
bon,
les vacances parce que c'est, alors au début, tu le lis, tu te dis, c'est bullshit ce truc, c'est n'importe quoi. Mais après, il y a quand même des trucs où dans tes gestes du quotidien et tout ça, par exemple, le truc de pas avoir d'idées préconçues, c'est super dur en vrai.
Ouais,
exemple, t'attends un coup de fil de quelqu'un, putain, la personne t'appelle pas, et là, inconsciemment, tu pars en vrille en mode ouais, c'est peut-être parce que mais c'est sûr, c'est parce qu'il m'a pas aimé ou qu'il a pas fait ça ou que il a trouvé quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, et en fait, c'est juste peut-être que le mec a complètement. Enfin, tu pars dans des délires et c'est très dur de ne pas rentrer là-dedans et ça te demande un vrai travail. Et tu vas voir, c'est pas mal.
Bah écoute, voilà. je vais suivre.
Mais tu m'achètes les 5 du coup, parce que maintenant je crois qu'il y a une version avec les 5 accords Toltec.
Je vais lire les 5 et puis je te ferai une petite dédicace quand j'aurai.
Moi, j'ai essayé de les
j'attends
revenir.
Ma dédicace.
Je te ferai une dédicace. J'attends ma dédicace avec impatience.
Peggy, écoute, c'est fini. C'était hyper chouette. Je te remercie d'avoir
c'est
accepté.
Déjà fini.
C'est déjà fini. Tu te rends compte, ça fait seulement 1 heure qu'on est ensemble.
Ça va.
On est dans le cadre. Mais si on veut te contacter, te suivre, travailler avec toi. Peut-être. Ouais. Donc Instagram à mort évidemment. C'est que en fait les gens te contactent en général via Instagram ou ils te contactent
via Instagram ou tu sais j'ai mon mail qui est sous mon truc donc ils m'envoient un mail mais c'est quand même les 3/4 du temps via Instagram.
Et toi
c'est
t'es
marrant.
Pas du tout sur LinkedIn.
Mais pas du tout. Mais alors il faut que j'y sois tu crois?
Bah ouais. Mais
il
grave.
Faut que j'y sois.
Moi tu sais que je suis influenceuse LinkedIn.
Non mais c'est un truc de dingue. Oui mais c'est très business non?
Bah oui mais bon d'un autre côté
tu crois que je dois y être sérieusement?
Mais bien sûr. Je vais faire comme Morgan Cesalori je vais te dire.
C'est clair il faut que tu me briefes parce que là pour le coup. Je ne sais pas. Non, mais je n'y vais jamais.
Mais c'est comme Instagram, en fait, quasiment. Alors, t'as pas les stories. Tu n'as pas de stories, donc c'est des posts.
Mais c'est une appli.
C'est un site internet et une appli, ouais. Okay. C'est un réseau social,
là,
si tu veux.
Je passe pour la bonne couillonne. Non, mais je vais y être. Parce que l'autre jour, quelqu'un m'a dit, mais je t'ai pas trouvé sur machin. Je dis, non. Ou alors, si, je dois y être, mais je ne sais pas comment. Mais c'est marqué journaliste Madame Figaro, alors que j'ai jamais.
Bon, on va peut-être se faire une petite session juste après pour te créer ton compte LinkedIn.
Voilà.
On va faire ça.
Oh la vache.
Merci Peggy.
Merci Pauline.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur polinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.